Erratum, désolé.
Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant André Da Silva et Nicolas Algan qui forment le duo Religo. Comme vous avez pu l'entendre, c'est l'association d'une trompette et d'une guitare avec laquelle ils sont parvenus à donner corps à ce son à part. Ensemble, ils proposent un répertoire de compositions et puis de reprises, tantôt de standards de jazz ou de musique latine, inspirées de la culture populaire brésilienne et de la musique cubaine. Bonjour à vous deux. Bienvenue dans les studios de Canal Sud.
Bonjour.
Alors, comment vous êtes rencontrés ?
On s'est rencontrés par des jams, en fait.
par des jams qui sont donc des événements organisés où on peut buffer entre différents musiciens. Et on s'est tout simplement rencontrés par ce biais-là en allant jouer à droite à gauche dans les bars toulousains.
Et dans quel bar il y a des jams pour faire un peu de pub?
Alors, par exemple, on a un excellent ami à nous qui anime une jam tous les mardis au Fil au Char.
Ouais.
Voilà, qui est une jam jazz groove. On a aussi des jams à l'extérieur de Toulouse, juste à côté, à la Baignoire par exemple, deux fois par mois.
Ce sont des jams uniquement jazz du coup?
Non, c'est assez éclectique en fait, c'est assez ouvert. Ça va être du jazz, mais aussi des musiques plus ouvertes, du groove, du funk, des reprises qu'on peut prendre un petit peu dans tous les sens. Quoi.
Ok, et les groupes se forment? C'est bien ça.
Et les groupes se forment, les gens se rencontrent souvent à ces occasions-là. Mm-hmm. On fait souvent des petites sessions comme ça, on rencontre des nouveaux musiciens et du coup, assez naturellement, on a eu envie d'entamer quelque chose.
C'est comme ça qu'est né Religo. Alors sur votre album, on voit une guitare qui rencontre une trompette avec un petit pont. Justement, c'est la rencontre de ces deux instruments. Et alors, comment vous avez construit votre parcours musical respectif?
On a construit notre parcours musical. En réalité, on le construit quotidiennement. Oui. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une formation un peu atypique, quoi. Et donc du coup l'association trompette-guitare n'est pas très commune dans le monde du jazz. Donc en réalité la construction du parcours, elle vient en fonction des questions qui viennent à nous au fur et à mesure. Et du coup cette construction-là s'est faite avec toutes les problématiques de l'instrumentation trompette-guitare qui sont posées à la base, du type qui accompagne, comment accompagner, qui improvise, comment on équilibre les rôles. Et du coup, de proposer une musique originale avec cette instrumentation-là, en fait.
C'est ce qui nous a paru original, et c'est une formation qui a été peu développée dans l'histoire du jazz. Il y a eu beaucoup de duos avec des pianos, mais guitare-trompette, on n'en a pas trouvé beaucoup. Donc ça nous a paru intéressant. Puis André a toute une culture de la guitare brésilienne, du choro notamment, et donc c'est intéressant. Moi j'ai une culture de la chanson française aussi, que j'ai pratiquée plus jeune. J'ai une formation où j'ai notamment fait des bals plus jeune. Donc on a un peu mixé tout ça, plus notre culture commune de jazz en fait, où on était tout simplement content déjà de jouer des standards. On s'est dit pourquoi pas plus, pourquoi pas...
Et d'où elle vous vient cette passion pour le jazz et pour la musique latine respectivement du coup?
Alors pour le jazz, c'est d'abord le jazz c'est un bien grand mot quoi.
Ouais, c'est vaste.
Très vaste. Oui.
Mais moi, cet amour, c'est pas plus pour le jazz, mais c'est plus pour la musique qui se fait sur l'instant. Donc la musique qui se crée au moment où on la fait. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de cette musique-là. Et en réalité, ça vient du fait que je suis venu faire mes études en musicologie à Toulouse, au Mirail. En musicologie, en jazz, du coup. Et du coup, ça m'a permis d'ouvrir mes oreilles et mon rapport à la compréhension de l'harmonie, etc.
D'accord. Et toi, du coup?
Ouais, c'est un petit peu pareil. Moi, je viens de la musique classique. Donc, j'ai une formation classique au départ. Et je pense que c'est la liberté de l'instant qui m'a plu dans le jazz, le fait de pouvoir créer soi-même. Donc, pareil, jazz, c'est vrai que c'est très vaste. Ça englobe plein de styles, au fond, mais... C'est cette liberté de pouvoir créer instantanément. Et donc, ce qui est intéressant dans le duo, c'est qu'il y a une mise à nu qui est intéressante. On est deux. Donc, c'est vraiment un dialogue continu, quoi.
Et vous avez... est-ce que c'est votre premier groupe que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu... Si oui, est-ce que vous avez eu des groupes uniquement de jazz ou d'autres styles de musique?
Alors, pour ma part, moi, j'ai joué dans énormément de projets ou de styles de musique différents, justement. On va dire en tant que trompettiste, j'ai cette chance d'avoir accès à... J'ai fait de tout.
Un large panel, en fait.
Ouais, j'ai fait du reggae, de la salsa, de la chanson française, de la musique de l'Est, etc., du gospel. Mais énormément en tant que sideman. Donc on va dire en tant que... J'ai participé dans les projets, mais je n'étais pas moi-même acteur principal. Pour ma part, c'est le premier projet que je développe
personnellement.
Activement, personnellement, ouais.
Ok.
Bon, pour ma part, le premier projet n'en était pas un. En réalité, c'était plus un contexte familial qui me l'a imposé, plus qu'autre chose. Et en réalité, j'ai commencé la musique à la maison en allant jouer à l'église. Mm-hmm, parce ouais. que ma mère était pasteur d'église, évangélique. Du coup, mon premier rapport à une expressivité à travers un instrument et au partage et à la communication avec autrui, c'était dans un contexte familial et religieux. Et du coup, j'ai, comme tout adolescent qui joue de la guitare, a découvert le rock aussi. Et du coup, il y a toute une période où j'ai aussi fait du Jimi Hendrix, etc. Et il s'avère que petit à petit, je faisais ça en réalité sans faire exprès, mais je réalisais aussi que j'aimais ça. Donc du coup, j'ai continué tout naturellement à faire des études dans ce domaine-là. Et je me retrouve à 27 ans en ayant l'impression d'avoir fait que ça depuis presque toujours.
Ah, c'est génial.
Et c'est très drôle. Oui.
Et est-ce que vous avez le projet d'agrandir votre groupe avec une voix, avec d'autres instruments éventuellement?
Alors le projet de plutôt d'inviter.
En fait,
c'est l'idée d'avoir une formule à deux. C'est qu'on peut inviter plein de personnes pour partager cet univers. Je pense qu'on avait besoin d'abord, pour un premier album, de présenter les choses, notre travail à deux. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'être que deux.
C'est plus souple aussi,
effectivement. C'est plus délicat sur scène, il faut jamais lâcher. C'est Donc c'est ça qui est très dur. Mais l'idée d'inviter, oui. Et d'inviter des personnes à partager les univers, ça c'est intéressant, oui.
J'entendais de la percu sur le morceau qu'on a entendu de ta Zones. C'était un de vous deux qui le faisait
Oui, c'est moi.
C'est toi. Ouais.
Et
c'est
sur la guitare.
Sur la guitare, ouais.
Oui, c'est en réalité, il y a plein de... Quand on a enregistré l'album, on a eu une espèce de trame globale de comment ça allait se passer, la séance d'enregistrement. Et il y a des petites choses qu'on avait prévues, d'autres non. Et du coup, la percussion qui est sur le morceau de Tazones, elle a été rajoutée, elle a été prévue, du coup, je l'ai jouée. Mais sur d'autres morceaux, beaucoup de choses sont venues sur le moment, en réalité.
Mmh, okay.
Donc, la possibilité d'enregistrer une deuxième trompette ou une deuxième guitare. Ou...
Donc là, la percu, elle est enregistrée à part.
C'est okay. ça.
Elle... D'accord.
A posteriori.
Ouais, ouais. Un peu dur à faire en live.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais après, justement, on est en train de travailler au fait de réadapter, on va dire, l'album nous a amené à produire quelques morceaux et du coup, on est en train de réadapter dans notre musique, par exemple avec le... Là, on a, enfin, je les ai pas là, mais on a apporté des pédales, par exemple, pour la trompette dans le son, notamment sur les compositions, en fait. C'est un petit peu le nouveau volet pour nous. Pour développer notre son de composition, on a eu besoin de s'établir sur une base de reprises qu'on a quand même beaucoup réarrangé, mais c'était assez important, je pense, pour vraiment avoir un son commun. Prendre le temps d'avoir un son commun, c'est quelque chose qui est assez compliqué, je pense, pour n'importe quel type de projet. Et à deux, on se rend compte immédiatement.
Sur ces reprises, et du coup, ces reprises, c'est un peu vos maîtres ou c'est... Vous êtes inspiré de morceaux qui peuvent vous réunir?
Alors déjà, je dirais, c'est avant tout des morceaux qu'on a aimé entendre. C'est des morceaux sur lesquels on a eu un coup de cœur. Donc il y a des maîtres. On reprend un morceau de Miles Davis. C'est quelqu'un qui m'a quand même beaucoup influencé dans mon jeu de trompette. On a repris un artiste qui s'appelle Ginga, qui est un Brésilien qui je pense a beaucoup influencé André aussi, qui fait le pont justement entre le choro et une harmonisation de plus propre au jazz, à Ellington notamment.
Oui, en réalité cet album pour moi est vraiment une espèce de préparation du terrain, quoi. Comme on prépare la terre pour planter ou pour faire du jardin, exactement.
Cette saison.
Et en l'occurrence, il s'avère que la terre est plutôt fertile. C'est-à-dire qu'on a eu quelques compositions et du coup, on commence à petit à petit s'orienter vers quelque chose de plus personnel, dans le sens quelque chose qui vient de nous, et pas de reprise.
Et donc là, vous avez trouvé votre univers, quoi. Vous êtes rencontrés. Et la composition, ça se passe comment? C'est un des deux qui amène une mélodie, qui amène...
C'est souvent comme ça, oui. En fait, là, le morceau qu'on a écouté est une composition d'André. Donc, il a amené une trame harmonique globale avec, avec une mélodie. Et moi, j'ai un petit peu créé ma voix dessus. En fait, on est assez ouvert. On teste immédiatement les idées. Et on enregistre beaucoup ce qu'on fait. Donc, du coup, à partir de là, on réécoute, on fait mûrir. Mais on reste assez ouvert. C'est quand même beaucoup de... Beaucoup de travail commun, avec un apport toujours personnel au départ, évidemment. Mais on peut amener une grille, et puis à partir de là, on peut, l'autre peut penser à un marquage, etc.
Ça se travaille un peu comme un bœuf, ou pas du tout dans les deux?
Ça travaille comme un atelier, quoi.
Ouais.
On cherche d'abord à savoir jouer le morceau tel quel. C'est quand même une première base, en tout cas quand c'est pour une reprise. Sinon, on essaye de faire tourner les premiers éléments. Après, les idées viennent en réécoutant, en laissant mûrir. C'est ça, c'est un atelier, en fait.
Pour ma part, la composition est vraiment... Il y a plusieurs façons de l'aborder. Même que je compose très rarement. Mais en réalité, il y a le type de composition qui vient de l'instrument, des automatismes, du coup, de la possibilité d'exprimer quelque chose par rapport à ces automatismes-là. Mais il y a aussi le rapport à juste chanter une mélodie ou quelque chose qui vient, une idée... Et ensuite aller vers l'instrument, ou parfois c'est un peu des deux, ou parfois c'est juste une couleur, et du coup une mélodie qui vient sans instrument, qui vient se rajouter à cette couleur de l'instrument. Ou parfois c'est juste une mélodie, et puis moi je rajoute une harmonie, ou une harmonie, ou il rajoute une mélodie.
C'est très très varié, oui.
Alors tu parlais du choro, c'est ça? Qu'est-ce que c'est le choro? Donc c'est une musique brésilienne, c'est une musique traditionnelle, non, c'est ça?
Le choro, c'est la première musique considérée comme... La musique traditionnelle comme étant figée, traditionnellement, comme étant une musique brésilienne, authentiquement brésilienne, historiquement parlant. Et c'est en réalité une musique qui a évolué quasiment presque en parallèle que l'histoire du jazz aussi. Et qui mélange des harmonies venant de l'Europe, de l'immigration, de la main-d'œuvre européenne, du coup qui ramenait plein d'instruments européens, du type la mandoline ou l'accordéon, qui s'est aussi retrouvé dans d'autres régions du Brésil, évidemment, et qui s'est mélangé avec des rythmes africains, quoi. Et donc, ça donnera l'essence à la samba, etc.
Et donc, toi, le choro... Non, pardon, je vais te finir.
Et le choro, c'est une espèce d'énorme bouillon, quoi. D'énorme casserole où il y a plein de choses... Mais le résultat, c'est quelque chose d'authentiquement brésilien. C'est qui, en fait, en réalité, un peu la culture brésilienne aussi, comme elle l'est, comme espèce de mélange de plusieurs univers et plusieurs
cultures. Plusieurs cultures, oui. En fait.
Et ça se transmet dans la musique, tout naturellement.
Et donc, tu es originaire du Brésil, on l'a pas dit, mais.
Je suis né en Guyane française.
Ouais.
Mais ma famille est brésilienne.
D'accord, ok. Et
ma mère, mes parents, tous mes frères.
Toi, t'as vécu là-bas jusqu'à un certain âge?
Non, du tout. L'été.
D'accord.
En réalité, j'ai jamais vécu là-bas, mais je suis jamais allé pour le tourisme non plus.
Oui, c'est la famille.
C'est ça.
Donc, ouais, des cultures bien ancrées.
Oui.
Ok. Moi, je vous proposerais peut-être de jouer un morceau et puis de revenir sur l'interview après.
Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Pour comme ça, on va pouvoir vraiment s'en rendre compte en direct.
En live, on vous laisse vous installer.
Si ça vous va.
Avec plaisir.
On laisse s'installer Roligo. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'album sort demain?
Que l'album sort demain, qu'il y a un concert le 27 avril au festival Terre de Jazz à Poucharamé. Poucharamé, c'est vraiment pas très loin, c'est à la Maison de la Terre.
Ça, c'est toi qui connais. Je ne sais pas où est Poucharamé, mais c'est pas très loin.
Ah, non, alors la date, c'est pas à Poucharamé, c'est au cinéma de Muret le 27 avril.
Erratum. Est-ce que vous êtes prêts? Faut me dire.
Ils ont l'air.
Vous avez l'air prêts? Bah, c'est quand vous voulez. Thank you. c'était Religo, c'était André Da Silva et Nicolas Algan, studio Religo, en live dans nos studios.
Voilà, avec une reprise, si j'ai bien reconnu, de c'était Brassens. Du Brassens. Voilà.
Je pense aussi, oui. C'est ça, on s'est pas trompé.
On s'est pas trompé. C'est un titre d'ailleurs qui est sur cet album qui va sortir demain, si j'ai bien compris.
C'est ça.
C'est ça.
Il sort demain dans les bacs,
on pourra le trouver. Et donc, pour la sortie de cet album, vous avez une date, donc le 27 avril, c'est au cinéma de Muret.
Voilà, dans le cadre des festivals Terre de Jazz,
voilà.
Et est-ce qu'on pourra trouver cet album, du coup, un peu partout ?
Un peu partout, voilà. Il est distribué, donc du coup, a priori, à la Fnac, vous l'avez à Gilbert Joseph aussi, etc., Cultura...
Génial.
Vous aviez fait quelque chose à Gilbert Joseph ou...
On a fait un petit showcase, ouais, voilà, il y a deux semaines. Il y en a un autre qui sera prévu au mois de juin, je pense.
Et donc, suite à la sortie de cet album, vous avez une petite tournée de prévue ou elle est en cours de programmation ?
Il y a quelques dates qui se mettent en place. Voilà, donc on joue le 13 mai au Bouche à Oreille, qui est un café-concert à Simor dans le Gers.
Oui.
Voilà. On joue pour le off de Jazz en Comminges aussi à la fin du mois de mai.
Mm-hmm.
Et donc après, on a gagné le tremplin de Jazz à 7 récemment.
Félicitations.
Voilà, donc ça c'est... On est en train parallèlement de s'inscrire à des tremplins. Et donc on aura l'honneur de jouer au Théâtre de la Mer le 15 juillet en première partie de Donny McCaslin et Émile Parisien.
D'accord.
Donc ça, c'est un petit peu notre événement phare de l'été.
De l'été, direction 7.
Et puis ça va peut-être, la liste va peut-être se rallonger avec l'été et les festivals, j'imagine.
Absolument.
L'album sort maintenant, mais on espère sur le cours de l'année de continuer ce travail-là, en tout cas de promotion de l'album. Quoi.
Ok, donc plutôt un beau retour pour l'instant de ce premier groupe.
Oui, on est très contents. On a eu aussi l'apport quand même de Nicolas Gardel, qu'on n'a pas cité encore, mais qui nous a produit l'album et donc qui nous a donné quand même un sacré coup de pouce et un sacré coup d'accélérateur au projet, quoi.
Ok.
Et Nicolas Favier qui a bien...
C'est... Qui a bien fait son boulot
qui
de com'.
Qui a bien fait son boulot de com'.
Il y a une histoire de Nicolas derrière tout ça.
Voilà, il y a pas mal de Nicolas.
Il y a aussi Nicolas Le Saint, notre ingénieur du son, etc. On part rentrer dans les détails.
C'est toute une histoire de Nicolas. C'est une génération aussi.
Et oui.
Et moi, je voulais vous parler un peu de la vidéo que vous avez faite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Vous en avez une sur le site, c'est ça ? C'est ouais. Un clip, quoi. Qu'il a réalisé, d'où vient l'envie
Celle où on est habillé en veste en cuir et on est dans un ICAS.
C'est ça.
Il y a le petit gamin qui nous vole.
Ouais.
c'était la première... On va dire notre première apparition publique, c'était cette vidéo. Et on a eu envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc on a rencontré deux personnes qui sont devenues deux amies à nous, qui sont Lisa Chabert et Lucille Chauvin, qui sont des cinéastes, des caméramans. Et du coup, on a eu l'idée de présenter notre musique un petit peu sous un aspect plus cinématographique, on va dire.
Ok, c'était avant même le premier concert, en fait.
Exactement.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est pas mal, bah ouais, c'est pour se faire connaître.
Exactement, c'était proposer autre chose que toutes ces vidéos où on voit, même si ça peut être très bien réalisé, mais des musiciens en studio en train de jouer.
Ouais.
On s'est dit que pour un duo, c'était... Il allait manquer vite de plans.
C'est vrai qu'on a pris un énorme risque en faisant ça, parce qu'en réalité, c'est pas l'option la plus facile de se faire connaître que de nous montrer en train de jouer aux échecs dans une casse.
Ouais.
Mais en tout cas, on a juste voulu proposer quelque chose, comme a dit Nico, de cinématographique, une espèce de mini court-métrage,
mm-hmm.
avec en fond d'autres musiques.
Oh,
et de
réussi.
Mettre en valeur plus un.
L'univers, quoi.
L'univers que ouais. La musique en soi.
D'accord.
Puis c'est aussi un contraste avec la musique qu'on entend, parce que la musique qu'on entend, c'est une espèce d'improvisation très baroque, en contrepoint, autour d'un standard de jazz. Donc du coup, qui est très entre guillemets organisé dans la façon de jouer. Et du coup, on voulait mettre en opposition la casse et le bordel. Et qui a aussi une partie de bordel dans l'improvisation aussi, c'est-à-dire
voilà,
quelque chose qui vient sur le moment.
C'est du bac improvisé un petit peu sur l'instant, c'est ça qui est... On reprend ses procédés, mais avec le côté création du jazz. C'est ce qu'on aime bien faire en fait, mélanger un petit peu tout ce qu'on trouve et essayer de voir comment les associer ensemble.
Ouais, mais c'est bien joué, j'ai bien aimé cette petite vidéo.
Comment ça prend ? Eh ben, merci beaucoup d'être venu dans les studios, André Da Silva et Nicolas Algan, pour nous parler de ce projet Religo. Et on vous retrouve le 27 avril au cinéma de Muret. Et puis, on peut retrouver toutes vos dates. Vous avez un site internet ou...
On a un site internet, c'est www.duoreligo.com.
Voilà.
Duo-religo.
Duo-religo. Voilà.
Duo-religo.
À deux, on a toutes les infos. Merci à Canal Sud de nous avoir invités.
Merci
beaucoup
à vous.
Merci.